Et vous écoutez France Culture. Étriquées jusqu'à la claustrophobie, des cellules gardaient au frais quelques squelettes enchaînés. Des grandes poupées d'ivoire au rire muet, dont chacun possède un exemplaire au fond de lui. Raphaël Emery. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre est perdu ce soir entre chorégraphie fric, érudition tératologique et dolorisme gothique. Mauvais genre qui reçoit Raphaël Emery à l'occasion de la sortie chez De Noël de Pornarina, son premier roman. Une émission que nous conclurons par quelques chroniques consacrées à des publications signées Roy Pinkerck et Saad Hossein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans mauvais genre résolument dark, comme on dit, gothique, érotique ce soir, puisque c'est cette Pornarina rêvée, cauchemardée par Raphaël Emery, qui sera au cœur de notre émission. Bonsoir Raphaël Emery.
Bonsoir.
C'est votre premier livre ?
Mon tout premier, oui.
Voilà, c'est un coup d'éclat ou c'est un aboutissement ? Derrière ce livre, il y a toute une trajectoire déjà, ou est-ce que c'est un...
Oui, il y a 10 ans d'écriture de nouvelles et de lectures diverses et variées qui amènent à ça.
10 ans de mauvais genre, de mauvais instincts, de mauvaises pensées et de goûts certains. En effet, on va voir à quel point Pornarina, ma foi, correspond pleinement au credo de votre émission préférée, une émission que je mènerai en compagnie de Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Comment va-t-elle ?
Elle va bien.
Elle va bien, rassurez-nous, elle va bien. Vous êtes la femme de toutes les ex. Et alors là, ça va bien ce soir.
Oui, mais je suis un phénix qui renaît toujours de ses cendres.
C'est vrai ça. Sixtine Audebert, bonsoir.
Bonsoir François.
Tout va bien ?
Oui, très très bien, puisque j'ai rendu mon manuscrit hier, mon mémoire, donc qui s'intitule « Les usages sous-culturels du latin dans la culture métal extrême ». J'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des références latines sur Facebook, parce qu'ils ont entendu mon appel dans l'émission.
Ah bah écoutez, c'est parfait, on est impatients de lire la version publiée, la version livre de ce travail qui sortira, j'imagine, chez un éditeur tout à fait mauvais genre. Bonsoir Jean-Luc Rivera.
Bonsoir François.
Quoi de neuf Jean-Luc Rivera ?
Bien écoutez, après une remise mémorable du Grand Prix de l'Imaginaire au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo il y a quelques jours, et bien maintenant je me suis plongé dans les mystères de la tératologie.
Oui, alors vous étiez après Benoît Grison qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire catégorie essai et qui parlait des animaux, ma foi, des cryptozoologiques. Là, vous avez à nouveau un peu, c'est un peu un animal cryptozoologique.
Hein. On passe d'un monstre à un autre.
Raphaël Emery, vous êtes un lecteur des cryptozoologues ?
Oui, ça fait partie des grandes sources d'inspiration.
Voilà, c'est vrai qu'on y pense en vous lisant. Mais avant cela, nous allons ouvrir, comme tous les samedis, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et donnez-nous la lettre, ma chère Céline.
Ce soir, je vous propose la lettre S, comme sang, même s'il ne sera pas question dans cette chronique de sang qui gicle, de mutilation, de pratiques extrêmes liées au BDSM, encore moins de bains de sang, de comtesse Bathory, de vampires, de meurtres, de décapitation, de cannibalisme, toutes ces scènes où l'hémoglobine coule à flot dans les films gore, de guerre de polar, ou même, pour anticiper légèrement sur votre livre Raphaël Emery, il ne sera même pas question de longues aiguilles que l'on s'enfonce dans le nez pour se faire saigner. Et quel est le nom de cette paraphilie?
L'hématophilie.
Alors non, donc le sang dont je compte vous parler aujourd'hui est celui qui coule tout naturellement, quelques jours par mois, hors du vagin des femmes et qui, bizarrement, est encore considéré comme un sujet tabou. Alors bien sûr, pas ici à mauvais genre, puisque vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé du collectif Ic Ex Sanguis Meus, ceci est mon sang, manifeste féministe de la chorégraphe italienne Paola Daniele, qui danse avec le propre sang de ses règles afin de montrer sa texture naturelle, les nuances de cette couleur carmin et surtout afin de faire comprendre que ce n'est ni repoussant, ni dégoûtant et encore moins impur, comme le disent toutes les religions monothéistes. Souvenez-vous aussi de la peintre Marie Morel et de ses lettres à Thomas, une correspondance amoureuse écrite avec le sang de ses règles, un flux, m'avait-elle dit, une couleur, une encre rouge avec laquelle composer. Mais je vous mets au défi de me procurer une longue liste de scènes dans la culture pop ou dans la culture de genre où il est abordé le thème des règles menstruelles, un phénomène, cependant, je me permets de le rappeler, qui touche la moitié de l'humanité pendant des dizaines d'années de leur vie. Alors les spécialistes, peut-être comme Christophe Beer, pourront peut-être me citer du côté du porno les périodes porn. nommée plus poétiquement Rhapsodie rouge, où vous voyez des scènes de sexe où des femmes perdent des litres de faux sang, mais je crois qu'on est bien loin de la réalité. Alors il y a aussi une scène dans le film Baise-moi où l'une des héroïnes a un filet de sang qui lui coule de l'entrejambe, et bien sûr la scène initiale de Carrie de Brian De Palma, où Carrie souffre douleur de ses camarades, découvre ses premières règles sous la douche et se fait atrocement humilier par la collectivité de filles. Un film d'horreur donc, comme quasi unique référence aux règles, ça donne donc à réfléchir. Mais voilà, les choses évoluent un peu, à voir la production récente consacrée à ce sujet, pas moins de 3 livres qui viennent de sortir en l'espace de quelques mois, des essais qui peuvent être à la fois intimes, pratiques, sociétales, scientifiques, historiques, culturels, et ils expliquent pourquoi et comment les règles ont toujours été un sujet dit honteux, alors qu'après tout, il est avant tout synonyme de cycle de vie. Il y a Ceci est mon sang, d'Élise Thiébaut, édition La Découverte, Le grand mystère des règles de Jacques Parker chez Flammarion, et Sans tabou de Camille Emmanuel, publié à la Musardine, Camille Emmanuel, que l'on est déjà entendu un mauvais genre, spécialiste des questions liées à la sexualité féminine et aux cultures érotiques et de genre. On y découvre ainsi les méfaits de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle qui énumère les préjugés qu'on a pu faire peser sur les femmes ayant leurs règles. Elles feraient tourner la mayonnaise, aigrir le vin doux, le sang menstruel serait si nocif qu'il tuerait les insectes nuisibles, transformerait les chiens en bêtes enragées, métamorphoserait les cultures céréalières en champs stériles. On songera aussi à remercier le célèbre Cesare Lombroso, créateur de l'école italienne de criminologie du 19e, qui parlant des femmes a écrit, je le cite, « Un des caractères particuliers de la folie criminelle des femmes, et qui n'est toutefois qu'une exagération de l'état normal, est la surexcitation qui se manifeste à l'époque menstruelle. En somme, conclut-il, dans cet état, la femme est capable de tout. » Ce qui laisse en effet la porte ouverte à tous les fantasmes et toutes les figures féminines les plus extrêmes. Alors si le livre d'Élise Thiébaut est plus sociologique et historique, celui de Camille Emmanuel aborde aussi le sujet de façon un peu plus punk. Elle montre une nouvelle génération de femmes qui est en train de transformer les règles en sujet public, et grâce à elle, j'ai découvert un clip de rap réjouissant réalisé par le collectif australien Skitbox. Ça s'appelle I Got That Flow, jeu de mots sur le débit du rappeur et sur le flux menstruel, où les 3 comédiennes chanteuses s'en donnent à cœur joie. Tout y passe, tampons, sang, serviettes hygiéniques, discours décomplexés, jubilatoires, poings dressés, le tout dans un rap sanglant qui réchauffe corps, vagin et bien sûr tous les cœurs. Et c'est à retrouver donc dans Sans tabou de Camille Emmanuel, qui est publié à la Musardine.
Christophe Beer, vous avez été cité, vous étiez là tapis dans l'ombre, oui. Vous avez été cité dans la chronique de Céline. Absolument. Une réaction sur les règles dans le porno.
Le porno n'aime pas le sang, le porno est très conventionnel finalement, enfin très souvent, mais j'ai tourné dans un court-métrage avec un personnage féminin qui faisait des peintures avec ses règles. C'était un court-métrage de Stéphane Derderian qui s'intitule « À bras raccourcis ». Et ça date de début des années 90, je crois, ou fin 90, voilà. Un des rares exemples de film réalisé par un homme avec du sang menstruel.
Merci Christophe.
Et je finissais dans ce film tué dans un flot d'hémoglobine. C'était un film vraiment avec beaucoup de sang à tous les étages.
Raphaël Emery, réaction à l'issue de cette chronique et de cette intervention brillante du maître Beer.
Ouais, c'est un sujet infiniment littéraire, c'est dommage qu'il ne soit pas plus traité, parce que quand il y a un tabou, c'est qu'il y a un problème, et quand il y a un problème, il y a la littérature derrière pour en parler. Et c'est un sujet en tout cas que j'anticipe un peu, mais donc je vais traiter dans mon deuxième roman, je suis en train d'écrire en ce moment, et sur tout ce qui sort du corps de la femme, les règles comprises. Donc voilà, c'est un sujet infiniment gothique en même temps.
Très bien, en attendant le plaisir de lire votre second roman, on va s'intéresser au premier qui vient de sortir en lune d'encre chez De Noël, Borna Arina. Jonathan Huliel en ouverture de cette playlist gothique conçue ce soir dans Mauvais Genre pour France Culture par notre ami Laurent Polleret. On va d'abord vous découvrir, Raphaël Emery, puisque premier roman, on ne peut pas dire que votre personnalité et votre parcours soient extrêmement développés sur Internet, et encore tout est à faire. Première chose, vous avez emprunté votre pseudonyme d'auteur à Rachil, donc ce qui situe un peu vos influences et vos lectures, mais quelles ont été un peu vos marques, on peut le dire. Où prenez-vous vos marques et quels ont été un peu les éléments importants, les dates fortes dans votre parcours, les lectures, les films et les expériences, puisque dans Pornarina, il n'est question que d'expériences existentielles.
Les expériences, j'ai commencé à lire assez tard, mais une première expérience que j'ai eue avec le gothique, c'est quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai vu à la télévision la bande-annonce de La Famille Addams. Du coup, je ne l'ai pas vue, j'étais trop petit, mais j'en ai rêvé la nuit, le soir même. Vraiment, c'est un monde où je me suis senti chez moi tout de suite. Et après, je ne lisais pas beaucoup. Et la deuxième expérience, c'était à 14 ans, quand j'étais voir Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson au cinéma en 2001. J'avais 14-15 ans. Et en sortant du Seigneur des Anneaux, j'ai été acheter Tolkien en librairie. Là, j'ai lu tout Tolkien. Après, j'ai levé la tête. J'ai lu toute la fantasy. J'ai levé la tête. Et j'ai eu la chance de tomber là sur Lovecraft.
Et à partir de Lovecraft... Et là, au départ, on levait la tête.
Voilà. Et là, ce coup-ci, je suis parti... Edgar Allan Poe, Les Décadents, toute cette littérature française qu'on a... Rachil, c'était un peu plus tard, mais voilà, donc c'est parti à peu près de là, en partant d'une fantaisie très, très fantaisie que maintenant je lis plus, mais après en partant, voilà, Lovecraft, et aujourd'hui maintenant plutôt dans les littératures genrées, mais j'aime bien la littérature quand elle est entre la littérature blanche et le genre, William T. Volman ou du Quignard, Pascal Quignard, des gens comme ça.
Alors, cet impact de Lovecraft, il est dû à quoi? À la noirceur intrinsèque du monde lovecraftien, à ce sentiment de monstruosité radicale, les grands anciens, ou à cette atmosphère de déviance, puisque vous donnez sur votre blog ce mot comme un peu le mot qui définit au mieux votre démarche et votre univers.
Oui, j'emploie le mot déviance, c'est pour pas dire un autre mot, parce que si je dis que je fais de l'horreur, on imagine des tripes de partout, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Si je dis que je fais du fantastique, on voit des fantômes, en fin de compte, on est dans une petite case tout de suite. La déviance, c'est pas un genre littéraire, c'est un thème qui peut être aussi dans la littérature blanche qu'en genre. Donc ça me permet de définir mon travail sans qu'on me mette dans une case, et j'ai pas du tout envie d'y être. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de la déviance. Et pour revenir sur Lovecraft... À rebours maintenant avec l'expérience que j'ai en littérature, c'est pas tant l'horreur qu'il y avait chez Lovecraft que sa différence narrativement, il est différent des autres. On n'est pas dans une écriture cinématographique. Il y avait vraiment, j'ai trouvé, je pense, là, la première fois, un écrivain qui nous racontait pas, j'ai ouvert une porte, j'ai mangé une cerise, j'ai pris une voiture, j'ai tué quelqu'un. On est avec un narrateur qui nous raconte l'histoire autrement. Et je pense que c'est ça qui me passionne chez Lovecraft, c'est la façon qu'il a de raconter les histoires qui sont très personnelles. C'est sa dimension narrative. Qui n'est pas totalement inédite, mais qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans beaucoup de littérature d'horreur, etc.
Alors dans Pornarina, page 70, il y a une liste d'auteurs, et on devine que c'est un peu votre panthéon. Thierry Dirolo, qu'on aime beaucoup à Mauvais Genre, là, oui. Effectivement, dans la manière de narrer, dans la noirceur et la déviance, il y a des choses. Thomas Ligotti, qui a été édité fort récemment, qui est un formidable conteur noir américain. Ça fait partie de vos références, j'imagine,
Ligotti. Oui, c'est toutes les références qui ont traversé pendant la lecture de Pornarina. Je leur ai rendu hommage en les mettant ici.
Il y a également le cinéma, ne l'oublions pas, Sonocion, Cronenberg, Sonocion et Cronenberg.
Oui, voilà, c'est les deux grands pour moi, c'est très classique de dire Cronenberg, il est cité à chaque émission de Mauvais Genre, mais...
Oui, il est même...
disons que c'est jeune génie en tout cas, mais... Et puis Sonocion que j'ai découvert beaucoup plus récemment, et c'était un peu la suite, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais trouvé dans les premiers films de Cronenberg, et je me suis un peu jeté dedans, et voilà.
Céline Duchesnay.
Je voulais savoir aussi comment est-ce que vous pêchiez vos informations. Est-ce que vous êtes un fils d'Internet, mais est-ce que vous êtes aussi, par exemple, un homme de terrain? Est-ce que vous fréquentez les réserves de musées? Est-ce que vous allez voir les collections de cire anatomique? Est-ce que vous allez voir les collections de bocaux qui sont conservées dans tous les musées de médecine ou de police? Parce qu'on retrouve beaucoup cet univers-là aussi dans votre livre.
C'est un peu les deux, beaucoup Internet. Et après, dès que je peux, je vais aussi sur le terrain, où j'étais à Auschwitz notamment... J'ai fait un voyage de 2 semaines où je jouais là-bas. Un autre type de terrain, mais disons que voilà, c'est des choses qui me passionnent. Après, c'est beaucoup sur Internet et de livre en livre. Internet, pour ça, c'est une mine absolument phénoménale. Et après, quand je fais des expositions, trop rarement, parce que je ne suis pas sur Paris, mais j'en fais de temps en temps quand je peux. Berlin de Brucker, notamment.
Et vous collectionnez des photos, comment vous procédez? Est-ce que c'est des images comme ça que vous collez après sur un mur, ou est-ce que ça donne une sorte de mosaïque comme ça dans lequel vous passez d'un univers à l'autre?
Oui, c'est ça. Dans mon bureau, j'ai à côté de moi, j'ai plein de photos, etc., et plein de livres. Après, quand j'aurai un manoir, quand je serai plus amené d'en avoir un, il sera sur le modèle des Adams. C'est ça, c'est vraiment mon rêve, et c'est ça fait partie de, d'agglomérer tout le temps comme ça autour de moi. C'est le monde dans lequel je veux vivre, dans lequel je vis à travers la fiction. Et à côté de moi, il y a toujours les photos des Adams, les photos de Edgar Allan Poe, etc. Tous les... Je vis dans cet univers au bureau, voilà, etc. C'était... Ça fait partie des grands
bureaux. Bureau, c'est-à-dire au Diable Vauvert, vous êtes
Oui, je suis... Oui, voilà.
Enfin, Mario Mazzori, qui est donc à côté d'une sorte de chapelle noire, j'imagine,
oui,
qui est le patron du Diable Vauvert, Jean-Luc voilà. Rivera.
J'avoue que là, la référence à la famille Adams, oui, c'est formidable. Et en plus de ça, j'avance peut-être un petit peu par rapport au sujet. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la description du château du docteur Blazek.
Oui, alors effectivement, c'est là. Dans la famille Adams, c'est le mot famille ou le mot Adams qui vous a le plus intéressé? Je veux dire par là, non pas que je vais faire de moi un défenseur de l'idée de famille, mais plutôt cette idée de groupe, d'éventail tératologique, de cocktail de monstruosité.
C'est les deux. Ouais, le ballon famille est quand même important parce qu'en fiction, enfin moi je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai une femme et je suis fan aussi de Sherlock Holmes, mais il y a pas de, j'ai pas beaucoup de, on peut pas s'identifier pareil. Et la famille Adams, le mot famille est quand même très important parce que ça. On peut s'y retrouver dedans quand on a une famille, justement. Et après, je sais pas trop le sens de la question. Après, j'ai un peu perdu le fil, mais...
Sixtine, Audebert.
Non, la famille, à ce moment-là, comme un peu comme famille dans disons, la cellule d'élaboration psychanalytique, peut-être, pour réorienter la question. Avec cette... non, parce que sinon on va anticiper trop, mais...
Voilà, c'est mal d'anticiper. Non, mais
disons surtout que la famille Adams montre que des gens qui sont fondamentalement extrêmement différents les uns des autres peuvent très bien s'entendre, vivre ensemble et s'aimer.
Voilà, c'est un peu ça le propos, Raphaël Emery.
Quelque sorte.
Alors, Fornarina, premier roman qui paraît chez De Noël, de notre invité, Raphaël Emery, mais d'autres textes avant ou à côté, Céline Duchesnay.
Alors, il y a donc notamment le Paraphile, que l'on peut trouver aux éditions La Musardine dans un livre qui s'appelle Oser, 20 histoires de sexe à l'hôtel. Et alors, c'est très très annonciateur finalement de ce qu'on va retrouver dans Pornarena, puisque c'est l'histoire d'une ancienne tenancière d'hôtel qui a délivré, chaque chambre a finalement est dédiée à une paraphilie en particulière. Donc il y a une sorte d'intervieweur un peu innocent et dégrossi qui va l'interviewer pour essayer de savoir ce qu'on faisait dans toutes ces chambres. Et ce qui est très intéressant et qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est que finalement la tenancière, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler de cet hôtel, s'appelle Marguerite Witkop, qui fait évidemment allusion à Gabriel Witkop. Et quand on sait que le livre La Marchande d'enfants de Gabriel Witkop, le personnage principal s'appelle Marguerite, on voit là une fois de plus cet hommage perpétuel que vous aimez rendre à de grandes figures. Alors comment peut-on les nommer, ou de la perversité, ou alors de la déviance, ou du monde de l'horreur? Et c'est ça que j'ai trouvé assez goûteux, je dirais, de retrouver Witkop.
Raphaël Emery.
Oui, je fais beaucoup de références. Après, tout ce que je lis, tout ce que j'écris, ça vient d'un livre que j'ai lu, forcément. Ça, et d'ailleurs, quand j'arrive plus à écrire, quand ça avance pas, je prends un bouquin au hasard derrière moi, un Dostoïevski, quoi que ce soit. Je lis une phrase et ça me fait repartir tout de suite dans un mode narratif ou dans une idée. Et j'avance vraiment, c'est mon moteur. Quand j'arrive plus à avancer, je prends l'ombre au saut, je lis trois pages et les idées reviennent à fond. Et c'est vraiment mon moteur, la bibliothèque derrière, j'ouvre autant les livres. Enfin, quand j'écris, je lis, les deux sont vraiment faits en même temps. Et c'est pour ça que les références, elles viennent naturellement, elles vont du livre, elles vont sur le papier. Voilà, et après, des fois j'en mets trop, il faut que je les gomme aussi. Mais...
Et avec une richesse du vocabulaire, parce qu'en termes de paraphilie, je crois que vous nous avez quand même tous absolument largement dépassés.
Et il faut y arriver.
Et j'ai donc découvert ce terme, la nécrodendrophilie, qui est une attirance sexuelle pour les arbres morts, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et il existe donc une chambre dans cet hôtel pour les gens qui ont cette déviance sexuelle-là. Qui fait-on ?
Raphaël Emery, qu'est-ce qu'on fait effectivement avec les arbres morts ?
C'est des déviances sexuelles. En fin de compte, là, je joue un peu avec les mots. Je prends des déviances sexuelles qui paraissent très spécifiques, mais en fin de compte, c'est juste que chaque personne peut avoir. C'est un mélange de petites paraphilies. Et par exemple, le fait avec le bois mort, ça peut être simplement le fait de se coucher nu sur du bois mort ou des choses comme ça, mais avec une autre activité sexuelle à côté, ça peut être mélangé. C'est jamais pris. Là, je les prends dans la chambre de façon séparée, mais une sexualité d'une personne, c'est un ensemble de petites déviances. Après. Quand on la sort du contexte et qu'on la prend, elle paraît énorme et très grosse, mais en fin de compte...
C'est vrai qu'il y a un côté vertigineux dans ces listes un peu rabelaisiennes, avec une langue très, très goulayante. Et je voulais savoir si justement, effectivement, votre style, qui est un style un peu de dandy, on pourrait dire qu'il y a un côté un peu distinctif de l'érudition, prolonge, disons, un effet d'occultisme. En fait, si vos références sont comme une invitation à chercher pour le lecteur, et donc occulte dans un premier temps, et révèle dans un second temps un autre intertexte plus large.
Oui, c'est exactement ça. Et la référence à Rabelais aussi, elle est présente. très présent dans mon esprit, la façon dont je construis les romans, avec toutes ces références. Et voilà, après, j'appelle le lecteur à découvrir tous ces univers. Et... Mais moi, une part de ce que j'ai découvert, c'est quand un auteur en citation, bah, je vais voir tout de suite. Je marche beaucoup comme ça. Donc,
Christophe Beer.
Oui, c'est un petit peu chagrine. Ça me chagrine le terme de déviance, parce qu'on est plus proche, là, du coup, de Lambroso que de la famille Adams. Il y a une sorte de contradiction à vouloir brandir ce terme.
Alors, il y a embellissement sexuel qui est cité dans le texte.
Parce que j'entends
le paraphile.
Beaucoup parler de déviance là, depuis le début de l'émission.
Et la tenancière, justement, tient à ce terme-là d'embellissement sexuel.
Mais c'est un mot de déviance qui n'est pas dit de façon du tout péjorative dans ma bouche. Enfin, c'est amélioratif. Enfin, quand je dis déviance, il n'y a pas de jugement de valeur du tout quand je dis déviance. C'est qu'après, c'est le vocabulaire, on va dire, des Adams, gothique. On dit que c'est une déviance, mais... Je ne la pointe pas du doigt, je dis pas. Enfin, au contraire, j'aime les déviances, et si on n'a pas de déviance, enfin, c'est plutôt un amour des déviances. C'est la littérature gothique, c'est l'amour de la mort, l'amour des déviances. Et il faut se mettre dans la position, on aime ça, enfin, ce n'est pas du tout montrer du doigt. Et, enfin, je ne montre pas du doigt les gens qui ont des déviances, enfin, tout le monde a de toute façon, ça n'a aucun sens. Donc non, c'est pas. Enfin, pour moi, ça, si on prend le terme, pour moi, il est très amélioratif et très même positif, en fait.
Alors, rassurez-vous, pour nous également, quand même,
voilà.
Christophe Beer, c'est un
oui,
mot,
oui, mais enfin, je me méfie toujours des mots parce qu'ils sont quand même. Nous ne sommes pas les seuls à les employer. Oui,
c'est comme mauvais gens, ça n'est pas un jugement, c'est un clin d'œil. Voilà, mais continuons notre découverte de l'univers de Pornarina. Raphaël Emery, Pornarina, donc notre invité de ce soir dans Mauvais Jean. On va rapidement silhouetter un peu l'histoire. Pornarina, c'est une sorte de mythe, divinité, une icône, une légende vivante qui entrait l'Europe, un spectre entre l'Europe, on dit certains. Et bien là, le spectre qui entre Mauvais Jean ce soir, c'est celui de Pornarina. Et au cœur de ce roman, il y a deux figures. Celle d'Anthony, donc une jeune contorsionniste ukrainienne, mais contorsionniste extrême, c'est-à-dire quasiment un fric, au sens où son corps peut se former, se déformer, se reformer, presque comme une pâte à modeler en permanence. Donc ce personnage est à la fois doué de capacités multiples dans l'action et la réaction physique. Et puis elle devient la protégée, la fille adoptive, la fille sublime d'un étrange personnage, le docteur Blazek, qui vit au cœur d'un manoir très manoir gothique où il y a recelé toutes ses collections, toute son œuvre et toutes ses méditations, dont le cœur est cette Pornarina. Et donc tout le roman va consister à chasser, à invoquer, à tenter de relever les brisées toujours fraîches et les traces possibles de cette figure de prostituée à la mâchoire et au visage de cheval qui émascule ses clients et qui laisse derrière elle des traînées sanglantes. Comment s'est constituée cette histoire, Raphaël Emery, puisque là, on a vraiment le sentiment d'une sorte d'accumulation presque naturelle, comme ça, vous savez, comme ces pierres ou ces branches de bois autour desquelles viennent s'accumuler, comme ça, des coquillages ou des groupes, des espèces de corps, d'organismes vivants. On a un peu, c'est ça, autour du mot de Pornarina est venu s'accumuler tout un univers, je dirais, philosophique et esthétique. C'est beaucoup plus ça qu'une histoire.
Oui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'avais tout un tas d'histoires et d'obsessions, et Pornarina a fait le lien. Donc, Voilà, c'est pour ça que Pornarina est cité à chaque fois. J'ai essayé, en fin de compte, pour donner une unité au roman, parce qu'à la base, c'est vraiment, on va dire, toutes mes recherches, toutes mes lectures que j'ai agglomérées. Et Pornarina, ça a été le lieu entre tous. Et je me suis forcé pour que ça fasse un roman, que chaque chapitre parle de Pornarina, revienne sur Pornarina, avec à chaque fois un axe différent. Et l'idée, c'était vraiment d'éclairer Pornarina, un peu de la façon dont aujourd'hui les répérologues éclairent Jacques Léventreur. Chacun a son interprétation, et puis ça donne une vision d'ensemble plus monstrueuse, en fin de compte, que dans la réalité. Mais voilà.
Alors, cette figure de femme et de cheval, comment elle vous est apparue? Est-ce que c'est le fruit d'une méditation? C'est la révélation d'un cauchemar? Est-ce qu'on vous l'a léguée? Comment est-elle née?
Ça s'est fait un peu comme ça. Je cherchais, en fin de compte, je voulais faire du néo-gothique dans la mesure où je voulais refaire un personnage qui aurait l'ampleur de Dracula ou de Frankenstein. Bon, je ne dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, je voulais rajouter une dimension contemporaine néo-gothique, c'est-à-dire sexuelle, mais très premier degré. C'est comme ça que la figure de la prostituée est apparue. Et après, j'ai fait un truc assez qu'on fait souvent en littérature. On mélange deux éléments qui ne se ressemblent pas forcément. On met une tête de cheval sur une femme, ça fait un monstre. Et voilà, ça s'est fait de cette façon, avec une dimension créer un monstre sexuel contemporain. C'était vraiment l'ambition.
En même temps, il y a une ambition philosophique, puisque vous dites, page 56, Pornarina comme l'apothéose de sa quête d'immoralité des corps. C'est peut-être aussi le but recherché, montrer qu'il y a une profonde, radicale immoralité des corps. Le corps échappe à la morale.
Oui, mais encore une fois, c'est encore vu de façon améliorative dans la bouche de Franz Blazek. C'est quand Quand je pointe les corps comme ça, c'est plutôt un amour des corps et un amour de la monstruosité. C'est pas du tout. Le roman ne montre jamais du doigt. Enfin, j'ai pas envie de montrer du doigt. On jouit en fin de compte de la mort, de la monstruosité humaine, etc. Et c'est ça la philosophie. En fin de compte, c'est cette philosophie gothique. C'est apprendre à jouir de sa mortalité, etc.
Jean-Luc Rivera.
Et en même temps, Pornarina est aussi définie dans un autre moment du livre comme étant la mère protectrice des prostituées. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant les descriptions, le portrait de Pornarina tel qu'il se dégage, c'est qu'en fait, on a l'impression moi, j'ai eu l'impression de voir un portrait de Hécate, la grande déesse octonienne des cauchemars et des terreurs nocturnes, sous une nouvelle apparence, celle du XXIe siècle.
Raphaël Emery.
Oui, c'était un peu l'idée de faire une figure mythologique qui forcément se base sur ce qui s'est un peu fait avant, mais contemporaine. Voilà. Mais ça, c'est un des aspects. Comme vous dites, chaque pornarinologue aura une vision très différente de ce qu'est Pornarina.
Céline Duchesne.
Je voudrais revenir quand même sur l'idée du cheval, parce que, en effet, elle émascule les hommes avec sa mâchoire. Vous auriez pu choisir une autre bête. Alors, à un moment donné, vous parlez de ce qu'incarne le cheval, cet esprit de liberté et du caractère sauvage. Est-ce que c'est ça qui a fait pencher, je dirais, la balance du côté du cheval?
Oui, c'est ça. Mais aussi, enfin, le cheval, en fin de compte, si on regarde la symbolique du cheval, il y en a autant du côté de la mort que du côté de la vie. Voilà, ouais. Il y a vraiment il est pris sur tous les flancs, et donc c'est une figure intéressante de ce point de vue-là. Et après, le cheval, c'est encore un des derniers grands animaux avec lesquels on vit, enfin de façon très quotidienne, enfin pas dans les villes, mais voilà. Mais c'est un cheval, c'est un corps énorme, et il est assez foudroyant de ce côté-là. Quand on le voit tomber, enfin il y a beaucoup de poètes qui ont fait ça avant moi, ou des corps de cheval qui tombent, etc. Donc c'est déjà une grande tension monstrueuse dans le cheval.
Cécile Audebert.
Moi, je voulais savoir comment vous aviez négocié, parce que plusieurs fois, vous y revenez, entre un discours un peu sexiste des pornarinologues et, en fait, finalement, cette figure qui est un peu celle une figure mythique de la femme perçue par l'homme, comme disait Jean-Luc Rivera, la mère, la maman, et de l'autre côté, la putain. Et il y a aussi toute la souillure progressive d'Anthony, et le fantasme d'expiation par émasculation ou décollation. En fait, tout ça, ça fait un érotisme assez bataillien et assez phallique, au final. Donc comment est-ce que vous avez négocié tout le temps entre ne pas déprécier la femme et en même temps glorifier cette espèce d'élan sexuel et agressif, en fait?
Raphaël Emery.
J'ai pas vraiment eu cette thématique, je me suis pas vraiment préoccupé de l'image que ça donnait de la femme, parce que c'est pas mon discours, c'est les pornarinologues, ils ont pas un discours, ils sont tous assez misogynes, donc je me suis pas vraiment préoccupé de ça. Mais après, c'est vrai que le personnage d'Anthony vient quand même un petit peu rajouter un contrebalancement, donc ce personnage féminin, mais qui est pas non plus un personnage très sain non plus, donc j'ai pas eu vraiment la thématique de me dire je vais faire en sorte qu'il y ait une image... L'image que ça a donnée, c'est pas la mienne, c'est les pornarinologues qui l'ont créée, et ça s'est fait malgré moi. En fait, j'ai laissé courir cette image, je me suis jamais soucié de savoir quelle image ça pouvait donner de ce point de vue-là.
La terreur gagna la jeune fille. Un vieillard dont elle ne comprenait pas la langue la soustrayait à la misère pour l'enfermer dans une irréelle demeure. Un château fort édifié sous Charles le Fou, à une époque de loups, de guerre et de satanisme. Massive, fermée, constellée de corbeaux étouffés de nuages mordorés, la bâtisse féodale lui remémora des contes d'ogres, des dévorations. Les créaux s'égrenaient, le fond herbeux des douves se craquelait. Les cryptes laissaient fermenter terre, ombre, trésors, cadavres. Au centre de ces murs malsains et malades, seul le tronc séculaire du donjon se dressait sans avoir perdu l'austère force, le sombre flamboiement du Moyen-Âge. À l'intérieur, en errance, ne sachant où poser le regard, l'enfant supporta la plus grande frayeur de son existence devant une abomination. Le tronc nu d'une femme fusionné avec celui d'un cheval. L'immense créature semblait statufiée. Elle demeurait au centre d'une chambre chargée de trophées de chasse. Au-dessus de la taille, l'abomination avait des seins ronds et une peau lumineuse. En dessous, le corps musculeux et les jambes d'une jument. La sueur des proies cascadait en fleuve gelé dans ses poils rêches et poussiéreux. Son visage exprimait l'horreur. Voilà un extrait de Pornarina de Raphaël Emery, notre invité de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Ce château, on pense évidemment à Gilles de Rais, on pense aux 120 journées de Sodome, on pense à Huysmans et à son évocation de Gilles de Rais dans Là-bas. Donc là, il y avait aussi la volonté de créer un lieu qui soit un lieu topique, vraiment qui incarne d'une certaine façon l'univers, je dirais, ce qui est à l'intérieur est incarné par ce qui est à l'extérieur.
Oui, bah c'est une vision. Enfin, c'est un lieu assez stéréotypé qui regroupe un peu comme le roman tous les. Il y a une collection tératologique à l'intérieur. C'est un peu le manoir des Adams. C'est un peu le château de Gilles de Rais. Ça agglomère un peu tout ça. Donc c'est une. Puis en même temps, c'est un fantasme personnel de posséder un lieu pareil.
Ah oui, c'est votre rêve. Ah,
absolument.
D'un jour posséder.
Je finirai là-bas.
Machecoul ou Chantossé.
C'est ça.
On vous le souhaite, Céline Duchesnay.
Ce qui est intéressant aussi dans le roman, c'est qu'il y a un perpétuel aller-retour entre. On ne sait jamais trop à quelle époque on se situe. On a l'impression, dès qu'on est évidemment dans le château gothique, on est en plein 19e, enfin dans vraiment le château avec ses oubliettes telles que le 19e l'a inventé. Et puis tout à coup, il y a une ribambelle d'enfants qui passent, qui ont des smartphones entre les mains, qui utilisent des ordinateurs. Et je voudrais revenir aussi sur ce que Sixtine, vous avez dit par rapport à cette figure féminine. D'Anthony, c'est ce contraste aussi entre le 19e finalement et le 21e siècle où se passe le roman. Finalement, Anthony, elle est entourée de gens qui sont issus directement des théories scientifiques du 19e, de la phrénologie, donc de la puissance et de la toute-puissance de la race blanche sur les autres races, de la toute-puissance aussi de l'intelligence masculine sur l'intelligence féminine, parce que souvenez-vous quand même à l'époque, Broca mesurait les cerveaux des hommes et des femmes et on était arrivé à la conclusion que les femmes étaient moins intelligentes. Et moi, je trouve que malgré tout, votre roman est tout de même très féministe. Mmh. Parce que ces deux figures de femmes qu'on a, que ce soit Anthony, qui s'appelle ou Anthony ou Antonia, ou finalement Pornarina, sont quand même des femmes qui vont à l'encontre des théories dominantes, qui font leur chemin, qui est un chemin qui est en effet assez particulier, parce que c'est un chemin de souffrance et puis de mort, mais qui ne se laisse pas abattre.
Sans oublier la figure de l'infirmière à la fin, qui est la femme d'un collectionneur, qui aussi est une figure, je dirais, pas de rédemption, mais en tout cas d'autorité. Raphaël Emery.
C'est rebondir sur... la question du féminisme, c'est un peu pareil, je me la suis pas posée vraiment, et je traite tous mes personnages de la même façon, donc... La première fois qu'on a évoqué le féminisme sur ce roman, c'est Gilles Dumay quand il a accepté le roman. Il en a parlé dans son mail de retour et ça m'a vraiment. J'étais le premier étonné en me disant j'ai ni voulu faire un roman féministe, ni anti-féministe, évidemment.
Mais ce qui est bon signe, c'est naturel chez vous.
Voilà,
tout simplement.
Et puis ça. Je n'ai jamais vu comme un sujet central. Je parle de guerre des sexes parce que c'est presque ça m'amuse en fin de compte, une espèce de guerre entre les hommes et les femmes. Et ça illustre ça, mais de façon grotesque. Mais. Je sais pas trop comment.
C'est quand même votre trame narrative au final, puisque vous avez dit que Pornarina, qui est quand même cette incarnation d'un monstre sexuel, est le liant de tout ce que vous avez réuni dans ce livre.
Oui, mais à part Pornarina, c'est le. Comment dire, c'est le. La sexualité ici, enfin, je sais pas trop comment rebondir dessus, je suis désolé. Ce qui était important, la figure de Pornarina, elle regroupe. Ce que j'ai voulu faire, c'est regrouper la mort et la sexualité. dans un personnage, ça a souvent été fait, mais je voulais faire façon très premier degré. Mais je ne sais pas trop.
Question complexe. Ouais, vous êtes au début du défrichage. Jean-Luc Rivera.
Je voudrais revenir un petit peu, justement. On a beaucoup parlé de la mentalité qui s'exprime. Et une ode au quelque part un roman féministe, oui. Mais en même temps, on pourrait faire une lecture au premier degré de Pornarina, qui serait pour moi une ode à la réhabilitation des théories de Cesare Lombroso. Parce que quelque part, dans tout le roman, Lombroso a raison, la monstruosité de l'esprit est représentée par la monstruosité du corps. Hein. Ce sont les pornarinologues, mais ce sont tous les autres, y compris d'ailleurs Antonia elle-même. Et donc, on sent qu'il y a toute cette dégénérescence physique et ce lien entre le génie et la folie. Donc, quelque part, vous réhabilitez Lombroso.
Oui, malgré moi, encore une fois. Non, mais c'est. En fin de compte, à l'origine, ce que j'ai échoué à faire, c'est que j'ai voulu créer un narrateur omniscient déviant. Après, j'ai abandonné en route, mais ça sera pour le suivant. Mais donc, c'est pour ça que la déviance, elle peut paraître presque surgir du narrateur, ou ce côté Lombroso qui serait accepté. Non, c'est pas le cas, mais.
Je vous posais une question, Raphaël Emery, peut-être moins programmatique. Comment travaillez-vous vos chapitres, puisque ce roman se constitue de la suite d'une, un peu comme des grands corridors avec des petites pièces ou d'une travée avec des petites chapelles. Il y en a plusieurs dizaines, près de 70. Comment chaque unité vous arrive-t-elle comme une sorte de petit poème en prose? Alors, est-ce qu'elle vous est donnée comme ça? Est-ce que c'est d'un premier jet? Au contraire, est-ce que vous ciselez? C'est quand même une langue extrêmement élaborée, avec un vocabulaire, un lexique, des néologismes, des listes. Vous travaillez aussi beaucoup l'esthétique de la liste. Comment chaque petite entité, chaque petit morceau de texte est travaillé?
Justement, chaque petit chapitre, c'est une obsession que je travaille, qui ont été écrits dans n'importe quel ordre. Et après, pour faire un roman, j'ai voulu faire un roman dans le sens rabelaisien, dans la mesure où, dans la mesure où j'ai voulu éviter de mettre trop de liens dans le roman. C'est-à-dire qu'il n'y a que mes obsessions qui sont mises les unes aux côtés des autres. Et ce que j'appelle le lien, c'est quand on lit des romans interminables où on sait qu'un bonhomme ouvre une porte, qui tue quelqu'un, qui boit un verre, etc.
Ouais.
Toute cette narration qui m'ennuie énormément. Et j'ai essayé de l'éclater au maximum.
Pulvériser, voilà.
Ouais. C'est ce qui donne l'impression qu'on a 70 chapitres qui sont un peu disparates. Et ce qui lit le tout, c'est pas la narration, c'est Pornarina. C'est l'idée de Pornarina et la façon dont elle va être définie. Voilà. Chapitre après chapitre.
Cette récurrence obsessionnelle à la figure de la grande prostituée à tête de cheval, la femme rouge de l'Apocalypse, Sixtine Hautbert, qui n'est pas la femme rouge de l'Apocalypse. Pas encore.
Parmi ces figures de style et ces tics récurrents que vous avez, il y a aussi celui du crossover, donc de réunir des personnages d'univers différents dans le roman. Qui se rencontreraient pas autrement. Donc il y a Hannibal Lecter qui est cité plusieurs fois, il y a Blazek en soi qui fait partie de véritables monstres, et il y a Sherlock Holmes. Alors pourquoi Sherlock Holmes?
Oui, parce que Sherlock
convoqué
Holmes
dans une sorte de nécruia,
ouvre le roman post-mortem, réapparaît. C'est quoi? C'est une sorte de... c'est le meilleur point de départ, Sherlock Holmes?
Oui, voilà, déjà, comme je le dis dans l'Incipit, c'est une aventure n'est jamais meilleure que lorsqu'elle commence au 221B. Et ensuite, c'est, comme j'ai dit, c'est 10 ans de ma vie de recherche et j'ai fait un mémoire sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes m'a toujours passionné. Et tout ce que j'ai lu pendant 10 ans est dans Pornarina, donc j'ai lu Sherlock Holmes.
Un mémoire sur Sherlock Holmes.
Oui,
sur René Réhouvent, sur les pastilles de René Réhouvent. Ouais. Voilà, donc c'était sur l'aspect enquête métalittéraire chez René Réhouvent. Voilà. Et justement, chez René Réhouvent, c'était Garan Poe souvent, etc. Il fait le même système un peu.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Mauvais Jean qui reçoit ce soir pour son premier roman Pornarina, paru chez De Noël dans la collection Lune d'encre, l'écrivain Raphaël Emery. Alors vous avez créé une nouvelle discipline, on parlait de Lombroso, on parlait de Conan Doyle. Cette discipline, c'est la pornarinologie, avec les pornarinologues. Là, c'est une véritable science exacte et une science expérimentale qui tient à la fois de l'érudition littéraire, de l'archéologie, de la médecine, de tout un tas de disciplines conjointes. Et ça, on sent que c'est au moins autant votre attachement que la figure de Pornarina, Raphaël Emery. C'est ces noces de feu entre l'érudition et la déviance, comme si l'une était la forme de l'autre et que se consacrer minutieusement à une enquête était déjà une forme de déviance, indépendamment du sujet.
Sur la pornarinologie, j'ai fait en fin de compte un miroir d'une une autre de mes passions, c'est la ripérologie, donc l'étude de Jack the Ripper, de Jack l'Éventreur. Et ça a été fait de la même façon avec... Ce qui est passionnant, c'est que ça devient un mythe littéraire au fur et à mesure, et Pornarina, c'est ça. À l'origine, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais existé, ou une serial killer comme tout autre, et c'est l'ensemble des théories qui vont créer le mythe au fur et à mesure. Et c'était vraiment pour moi aussi un roman sur la mythification, sur la création des mythes littéraires à partir de faits réels, comme Jacques l'Éventreur notamment.
Il y a plus que ça, puisque vos pornarinologues sont extrêmement travaillés. Alors il y a celui qui accumule les traces, il y a Blazek qui est un sort de pornarinologue en chambre, mais alors, il y a cet autre pornarinologue tout à fait étonnant qui travaille avec des blattes.
Oui, chaque pornarinologue...
On peut en savoir un peu plus sur cet étonnant personnage.
C'est un peu le personnage, pour apporter un peu d'humour dans le roman, je dirais, le personnage de Bérangère Rose, qui est un peu grotesque, c'est le plus grotesque de tous les pornarinologues, avec ses théories complètement fumeuses sur des blattes qui pourraient suivre à la trace Pornarina à partir de l'odeur de son entrecuisse.
Donc, des blattes bleues.
Ouais, des blattes bleues. Donc là, c'était vraiment... Chaque personnage amène une touche. Il y en a qui sont très sérieux, très déviants, très noirs. Et Bérangère Rose, c'était un peu le côté grand guignol, très grotesque. Ouais, donc chaque
Finalement, il est aussi machiavélique que les autres.
Ah oui, mais ils sont tous plus ou moins machiavéliques. Après, j'ai une préférence pour le dernier, pour ceux qui recherchent la grande expiation, c'est-à-dire que pour se débarrasser enfin du poids de cette libido. Et ma Pornarina, moi, ça serait celle-ci, avec cette grande expiatrice. Après, chacun a la sienne. Et c'est important qu'il y ait vraiment des dimensions très différentes, que je fasse voir qu'il n'y a pas une Pornarina et que... C'est pour ça que les personnages sont très différents et ont tous une vision très différente de Pornarina.
D'ailleurs, Pornarina, on ne va pas trop en dire sur le roman, Raphaël Emery, mais quand même, c'est un personnage dans les lointains. Et c'est beaucoup plus efficace de l'entendre hennir aux confins des forêts que de la voir se précipiter sur vous. Il y a une véritable comme ça, hantise qui est renforcée par sa distance.
J'ai fait exactement pareil qu'avec Jacques l'Éventreur. C'est le plus passionnant parce qu'on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais. Et c'est ça qui fait que c'est un monstre qui marche bien, un mythique pour Jack l'Éventreur. Et j'ai fait pareil avec Pornarina, pour ce côté lointain et intouchable, inatteignable.
Il y a les pornarinettes aussi, dont on pourrait parler.
Parlons des pornarinettes.
Du personnage Fell. Alors, qui sont-elles, les pornarinettes?
C'était encore une fois, c'est un des pornarinologues qui, ne trouvant pas Pornarina, il les fait un peu de son côté. Ils sont tous en train de la créer plus ou moins. À la fin, on ne sait même pas si elle existe. Et les pornarinettes, c'est un pornarinologue qui capture des femmes dont il pense qu'elles ressemblent plus ou moins à Pornarina, des femmes très impressionnantes, etc.
Qui les séquestre.
Qui les séquestre et qui...
Oui.
Qui les séquestre et qui les engraisse dans des cachots, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est juste une vision de Pornarina et... Vu que personne ne la trouve vraiment, ils essaient tous de la créer plus ou moins de façon diverse et variée.
Alors, ce qui est quand même, on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, mais la manière dont est né le nom de Pornarina, elle vient quand même d'une œuvre qui incarne non pas l'horreur à tête de cheval, mais la beauté, le désir, la sensualité. Fornarina quand même.
Oui, il y avait Fornarina, mais ça m'est venu après. C'est le nom Pornarina, je l'ai trouvé dans un livre assez étonnant qui s'appelle Being de Melmoth. C'était Daniel Théron qui l'avait écrit, et j'ai vu dans un poème le nom de Pornarina et je l'ai pris là tout simplement. Enfin, je l'ai trouvé tellement beau et je l'ai intégré. Avant, elle avait un autre nom. Et voilà, ça c'est venu de cette façon-là. Et après, une fois que j'ai eu le nom Pornarina, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé Fornarina et j'ai fait ça.
C'est ça, donc ça vous a été donné après?
Oui, j'ai pris Pornarina et je me suis dit, Pornarina, il y a porno dedans, il y a Fornarina. Et après, j'ai fait à rebours, j'ai fait le chemin à l'envers. Voilà.
Jean-Luc Rivera.
Ce qui est fascinant pour moi, et Sixtine Audebert commençait à en parler un petit peu avec Fell, qui lui collectionne les pornarinettes, c'est qu'en fait, c'est un roman qui est dédié à tous les collectionneurs. Vous l'avez d'ailleurs un peu évoqué, puisque vous-même, vous rêvez d'avoir un jour le château de Blazec. Mais à l'intérieur du roman, il n'y a que des collectionneurs obsessionnels. Collectionnent les noms, ils collectionnent les listes, ils collectionnent les objets. Ce ne sont que des collectionneurs. Et quelque part, la passion obsessionnelle de la collection l'emporte finalement sur tout le reste.
Raphaël Emery.
Oui, le roman, c'est déjà une collection de citations. Il y a plein de citations que j'ai pas tout donné. D'ailleurs, l'extrait que vous avez lu au début, je dois la rendre à Gabriel Whitcup. J'ai pas cité tous les extraits. C'est un recueil de citations, c'est un recueil d'obsessions, c'est une collection permanente sur tous les plans.
Eh bien, à la rencontre des obsessions, n'est-ce pas, Monsieur Beer, et des collections de Raphaël Emery avec ce premier roman tout à fait remarquable et parfaitement mauvais genre. Donc, paru chez De Noël dans la collection Lune d'encre, Pornarina, la prostituée à tête de cheval. Et puisque l'on citait le nom de Gabrielle Whitcup, qui est une de vos grandes inspiratrices, je signale aux éditions Le Vampire Actif dans la collection Les Échappés, la parution de Litanie pour une amande funèbre, des poèmes de Gabrielle Whitcup, jadis paru en Italie et aujourd'hui somptueusement réédité par Le Vampire Actif avec de magnifiques collages, surréalistes d'ailleurs, de Gabrielle Whitcup que l'on salue là où l'est, quelque part dans l'au-delà. Maxwell Sterling, un choix de Laurent Polleret pour cette playlist de mauvais genre ce soir, qui reçoit Raphaël Emery pour Pornarina chez De Noël. On passe maintenant aux chroniques avec la première d'entre elles, donc avec vous, Sixtine Audebert,
oui,
Roy Pinkers.
De Faire Sensation de Roy Pinker, donc qui est paru aux éditions Agone. Alors, question pour vous, Raphaël Emery, connaissez-vous Roy Pinker?
Non.
Eh bien, c'est normal, car Roy Pinker n'existe pas.
Ah,
c'est un grand
c'est un
reporter.
C'est un piège, vous auriez dit oui. Souffrance.
C'est un envoyé spécial inventé par détective donc pour assurer la couverture de l'affaire dont il est question dans ce livre. Et sous ce pseudonyme, donc en couverture, se cache le collectif d'universitaires à l'origine du livre et deux d'entre eux notamment, Paul Aron et Johan Veria, qui se sont chargés de la rédaction. Donc pourquoi ce titre Faire Sensation? C'est pas évidemment un livre pratique destiné à vous enseigner les rudiments de la vie de star. Non, c'est un livre sur la construction médiatique de la célébrité dans l'Amérique des années 30 et de l'Amérique de la Grande Dépression, de l'entre-deux-guerres. Et le point de départ de ce livre, c'est l'événement le plus médiatisé de tous les temps, l'enlèvement du bébé Lindbergh. Alors pour résumer rapidement, Charles Lindbergh, donc c'est le premier à avoir fait en solitaire la traversée en avion Paris-New York en 1927. Évidemment, après ce succès, plus personne ne va le lâcher. Les médias sont constamment là. Il est décrit par la presse comme une figure du surhomme, à la fois à la croisée entre l'imaginaire romantique de l'homme seul face à la nature et l'imaginaire social de la méritocratie. Et il tente, tant bien que mal, de maintenir la frontière entre public et privé. Alors, il se marie, il a un enfant, c'est la belle vie. Il essaie d'éviter les tabloïdes au maximum, jusqu'en 1932, où là, disparition du bébé Lindbergh. Les médias s'emparent de toutes les petites informations qu'ils peuvent trouver. La pègre est mêlée à l'affaire. Al Capone va être trouvé dans sa cellule. Il va proposer ses services pour aider à retrouver le bébé. Et finalement, le cadavre du bébé est retrouvé enterré dans le fond du jardin. Et là, c'est le drame. Donc, c'est un livre qui décrit comment cette poursuite de l'information en continu, malgré l'impossibilité de rendre compte finalement de cette dernière heure par heure, va initier un basculement vers le sensationnel. Donc, pour pallier à la vacuité, au manque de véritable matière et à la distance, on va surimposer du tragique, du pathos, de la fiction, pour instiller ce qu'on pourrait appeler une espèce de tension narrative. Les frontières du privé sont transgresser en dépit de toute pudeur et toute morale, car rappelons-le, en fait, derrière ces gros titres, derrière ces photos à la une, derrière les petites échelles miniatures qui sont vendues autour du procès, derrière le cadavre exquis de Dali ou le roman de Philip Ross, il y a une véritable mort et un deuil d'une famille très lourd. Donc faire sensation, c'est un peu, si vous voulez, une critique un peu baudrillardienne de ce que le sous-titre appelle le barnum médiatique, c'est-à-dire la spectacularisation continuelle de l'information.
Et c'est aux éditions ?
C'est aux éditions Agone.
Voilà, donc Roy Pinkers, l'homme qui n'existait pas. Merci Sixtine Audebert. On passe maintenant à les chroniques plus fantastique, science-fiction. Quel label et quelle catégorie, Jean-Luc Rivera ?
C'est fantastique.
C'est fantastique et c'est Bagdad, la grande évasion.
De Saad Hossein.
C'est chez Agulot.
C'est chez Agulot. Alors c'est un livre qui est à la fois très curieux et très drôle, contrairement au livre dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Déjà, première curiosité, l'auteur est un journaliste et un romancier de Dhaka, au Bangladesh. Donc avec Bagdad, la grande évasion, il nous offre une vision très décalée sur ce qui s'est passé lors de l'invasion américaine en 2004, après la deuxième guerre irakienne. Donc on est dans ce chaos généralisé que sont devenus l'Irak et en particulier Bagdad. Et donc, on trouve un certain nombre de personnages qui sont tous très différents et assez déjantés. Il y a entre autres deux voyous qui ont fait prisonnier un membre de la sécurité de Saddam Hussein, un ancien tortionnaire, et qui essayait, lui, de s'échapper. Il y a un soldat américain traficoteur qui a vite compris que dans ce genre de situation, on peut se faire plein de sous. Mais il fait ça la petite semaine parce qu'il est quand même pas très doué par moment. Il y a un alchimiste, et un alchimiste qui a trouvé la pierre philosophale, lui. Un bibliothécaire reclus, complètement fou, qui protège depuis 20 ans des trésors de livres qui sont en train de pourrir. Et donc tout ce petit monde-là va se retrouver, s'entrecroiser, se servir les uns des autres, bien entendu se tromper les uns les autres au maximum, sans oublier aussi de se massacrer et de se torturer. Et tout ça, autour de quoi ? D'une montre. Une montre qui est très ancienne, très curieuse, et qui cache ou cacherait un secret extrêmement important, en tout cas beaucoup plus important que le trésor de guerre planqué par Tariq Aziz près de Mossoul, et que à l'origine, tout ce petit monde-là commençait à chercher, entre autres sous la houlette du tortionnaire de Saddam Hussein. Donc, vous voyez, c'est écrit, alors des personnages complètement déjantés, c'est écrit avec un humour totalement décapant. L'auteur met dans le même sac toutes les factions en présence, qu'elles soient religieuses, politiques ou les Américains. Les uns ne valent pas plus cher que les autres. Et en même temps, l'auteur analyse avec beaucoup de finesse tout le chaos qu'a entraîné l'effondrement du parti Baas à l'époque, et aussi l'incompréhension américaine face à cette situation, face à un pays auquel ils n'ont rien compris. Et donc, ce roman présente en même temps une énigme qui est tout à fait originale. Et alors, je trahis très légèrement, l'énigme est basée sur une population qui est assez peu et assez mal connue, qui est celle des Druzes. Donc, c'est à lire sans modération cet été.
Et je citerai aussi Agulot, une mention pour terminer.
Et une mention rapide pour Daniel O'Malley, Agent Double, le deuxième volume de Au service surnaturel de Sa Majesté. Les deux volumes sont sortis chez Super 8. Il faut lire Les aventures et les mésaventures de Miffan Wee Thomas, qui défend la Grande-Bretagne contre les effrayants greffeurs belges.
Merci Jean-Luc Rivera. Nous terminons cette émission, comme d'hab, bien évidemment, avec vous, Maître Beer.
Publié par la Manufacture de Livres, Albuquerque est un polar de poche, 171 pages et 11 chapitres, écrit par Dominique Format, dans un style sans gratuité d'une sécheresse tenace. Son récit très court tend à l'épure, troué de bouffées de violence insoutenables et d'un sens aigu du portrait caustique. Jusqu'au second rôle, la peur et la bêtise déforment et enlaidissent. Albuquerque, Nouveau-Mexique, une Pontiac Firebird rôde dans un parking du centre-ville. Venu buter son misérable gardien, deux gangsters échouent piteusement dans leur traquenard. Jamie Ashton, l'employé aux aguets, les attendait depuis 11 ans, plus lucide et désespéré que son pays éberlué qui se relève de l'effondrement récent des Twin Towers. Forman ne cajole pas la mythologie, il la démasque. La puissante Amérique de Bush se résume à une myriade de mini-drapeaux en plastique, aussi dérisoires que les personnages. Jamie ne voulait qu'une chose, rester immergé dans la masse anonyme. Un ponte de la mafia pour lequel il travaillait est tombé à cause de lui. Jamie est une balance, planquée sous une autre identité fournie par le programme fédéral de protection des témoins. Il n'y a pas de secret inviolable, écrirait Forma qui parsème son récit d'aphorismes inflexibles, sa seule coquetterie d'auteur. Coursé par les tueurs, Jamie embarque sa femme, Jackie, dans une fuite glaçante jusqu'à Los Angeles, en quête de l'agent fédéral qui leur fournira une nouvelle identité, un nouveau lieu, une nouvelle routine. Car l'antagoniste principal de Jamie n'est pas tant la mafia, avec ses porte-flingues pathétiques, que l'ennui, ce poison mortel qui a corrodé son couple et fait de lui une épave méprisée par sa femme. Taillant la route 66, les époux traqués fuient les mensonges qui les ont condamnés à la médiocrité à perpétuité. Couple paumé, aux abois des sentiments, ils ne trouvent aucune aide. L'auteur le noie sous une amertume cruelle et poignante, souligne le dégoût de Jackie, s'acharne sur l'empattement de Jamie et fait surgir de sa conscience tourmentée des spectres gémissants et accusateurs. Seul objectif formulé, redevenir incolore, se fondre parmi les milliers de touristes de Las Vegas. Le roman noir est souvent une mécanique impitoyable d'efficacité tragique dans laquelle des pauvres types se laissent essorer par la poisse, les yeux grands ouverts. La recette est parfois trop éprouvée, sauf qu'Albuquerque devient le récit d'une écriture qui se laisse surprendre et séduire par ses personnages. Au bout de la route, les aphorismes cinglants cèdent le terrain à un soupçon de lyrisme moins désenchanté.
Merci Christophe Beer, signale la revue d'ailleurs Ciné Bazar, dans laquelle on vous retrouvera, Christophe Beer et surtout Jean-Pierre Mocky, mais on reviendra sur cette revue, c'est le numéro 5, dans le numéro de mai 2017. Merci Raphaël Emery d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre.
Merci à vous.
On vous retrouvera pour un second roman, j'espère, avec une thématique équivalente, car effectivement, elle est la nôtre. Donc, Raphaël Emery, Pornarina, la prostituée à tête de cheval, c'est chez De Noël dans la collection Lune d'Angle. Je signale également Gabriel Wittkopf aux éditions Le Vampire Actif, Litanie pour une amende funèbre. Camille Emmanuel, Sans Tabou aux éditions La Musardine, un essai intime, social et culturel sur les règles. Roy Pinker, Faire Sensation, de l'enlèvement du bébé Lindbergh au Barnum médiatique, c'est chez Agone dans la collection Contre-feu. Et Bagdad, La Grande Évasion, c'est aux éditions Agulo, un roman de Saad Hossein. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Fabien Capel, Claire Martin-Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnel, Sixtine Audebert, Jean-Luc Rivera, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain, où je serai en compagnie de Laurent Vallière pour son histoire de l'animation française. Et d'ici là, on ne quitte pas l'antenne de France Culture, où l'on retrouve Amaury Chardot pour son émission métronomique.